Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous avons vu la dernière fois le problème de la conscience lorsqu'on la définit mal. Et puis évidemment, la définition, ce n'est pas qu'une question de mots. Cela a des conséquences dans la vie. Lorsqu'on en fait une faculté, alors qu'elle n'est qu'un jugement de nos actes. Elle n'est pas la règle de nos actions, elle dit quelle est la règle, ou plus exactement, comment la règle s'applique. La révolution, donc, repose en grande partie sur une conscience souveraine. Et qui dit conscience souveraine, dit évidemment qu'on échappe à Dieu, et puis qu'on finit par prendre la place de Dieu. C'est ce que vous voyez autour de vous. Ce n'est pas parce que la conscience est problématique aujourd'hui qu'il faut la nier. Il faut au contraire la mettre à sa place. La mettre à sa place, c'est-à-dire restaurer tout le processus qui mène à des actes de conscience qui sont justes, qui sont bons, qui sont dans le cœur de Jésus. Vous avez à faire cela d'abord en éducation, si vous êtes père ou mère de famille, ou éducateur. Former la conscience des enfants est quelque chose de très 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 important, parce que c'est par la conscience qu'ils pourront, par une conscience bien formée, droite et juste et dans le cœur de Jésus, qu'ils pourront prendre leur envol, se diriger tout seuls et même diriger les autres. Si leur conscience n'est pas formée, à ce moment-là, ils seront la victime de la révolution. Il n'y a pas que la conscience des enfants qu'il faut former, il y a la nôtre également. Et puis, il ne suffit pas de la former, il faut mettre en application ce qu'on a formé, justement, c'est-à-dire qu'il faut exercer la conscience bien comme il faut. Je vous ai dit que la conscience était le résultat, l'aboutissement de tout un processus, et ce qui compte, cela va être le début du processus, en tout début. Si le début du processus n'est pas bon, rien ne sera bon dans la suite. Or, le début du processus, c'est de ne rien préférer à la sagesse de Dieu et à l'amour de Dieu. Quand on a posé ce fondement, alors le reste n'est pas nécessairement toujours en ordre, mais au moins, on évite les plus graves désordres. Concrètement, ça veut dire qu'il faut fuir le péché mortel, ça c'est une évidence, mais ça ne l'est pas toujours. Hein. Ça ne l'est pas toujours. Vous avez des gens aujourd'hui qui considèrent qu'un péché mortel n'est pas un péché mortel lorsque leur conscience leur montre que ceci ou cela. Il faut fuir le péché véniel de propos délibérés. Vous allez me dire, le péché véniel de propos délibérés ne mène pas en enfer. L'habitude du péché véniel de propos délibérés est une habitude de mépris de Dieu. Et il y a, nous disait Mgr Lefebvre, quelque chose du péché contre le Saint-Esprit dans cette mauvaise habitude du péché véniel de propos délibérés. Et finalement, c'est comme toute la tiédeur, cela très souvent mène en enfer. Et en tout cas, ce à quoi cela mène très souvent, ça mène à la négligence envers le bon Dieu, et la négligence envers le bon Dieu, certainement, premièrement, ne fait pas des contre-révolutionnaires, ne forme pas des contre-révolutionnaires. Or, aujourd'hui, celui qui n'est pas contre-révolutionnaire va très vite tomber dans les raies, c'est-à-dire les filets du démon. Alors, je voudrais même voir avec vous quelque chose de plus délicat encore. Y a-t-il des obligations qui ne soient pas sous peine de péché? On entend souvent dire que tels ou tels engagements ne sont pas sous peine de péché. Par exemple, les bénédictins de la congrégation de Saint-Maur disaient que la règle de Saint-Benoît, la règle qu'ils suivaient, ne les obligeait pas sous peine de péché. Et que par conséquent, S'il ne respectait pas le jeûne ou d'autres prescriptions de la règle, il n'était pas en état de péché. Du coup, cela a fait une controverse. Un théologien est intervenu pour dire, si au lieu de les appeler bénédictins ayant des implications dans le monde, on les appelait clergés séguliers ayant choisi une certaine perfection avec la règle bénédictine, il n'y aurait plus de problème, puisque les prêtres dans le monde ne sont pas obligés à jeûner, etc. Ben ça, c'est un tour de passe-passe. Et dont Mabillon, qui était un grand bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, dit « Il est évident que la règle nous montre ce que nous devons faire, et ne pas faire ce que nous devons faire, c'est évidemment un péché. » Et on voit par là que ce mauvais théologien avait une mauvaise conception de la vie même du clergé séculier. Parce que le clergé séculier ne soit peut-être pas obligé de jeûner, d'accord, encore que, seulement il est obligé de faire tout ce qu'il faut, d'abord pour être un bon prêtre, un saint prêtre, et mener un bon ministère. Or justement, le jeûne, j'ai pris cet exemple, on pourrait en prendre d'autres, fait partie de ce qui perfectionne nos actions, et si on ne jeûne pas, il faut trouver autre chose, parce qu'il faut perfectionner nos actions. On avait la même chose, vous voyez, dans la charte du MJCF, qui est devenue la charte des Amis du Sacré-Cœur. Cette charte n'oblige pas sous peine de péché. Alors très facilement, on en conclut que celui qui ne suit pas la charte ne fait pas de péché. Mais ça, c'est faux. On entend également la même chose. Vos résolutions personnelles ne vous obligent pas sous peine de péché. Par exemple, vous avez pris la résolution de ne pas boire de vin, supposons, hein, je prends un exemple, pendant tout le carême. Et puis finalement, vous vous dites, « Oh, après tout, ça n'oblige pas sous peine de péché, ça n'était qu'une résolution personnelle, je peux bien prendre du vin. » Alors, y a-t-il ou n'y a-t-il pas péché? Lorsqu'on dit que la règle n'oblige pas sous peine de péché, ça veut dire qu'elle ne rajoute pas un péché de désobéissance à celui qui est fait par mépris de la sagesse de Dieu ou celui de la négligence envers la conduite que le bon Dieu voulait avoir de nous. Cela veut dire que l'Église ou la nature des choses ne fait pas faire deux péchés, un péché de désobéissance plus un péché de négligence, il n'y en a qu'un. Si vous avez bu du vin pendant le carême, vous n'avez désobéi à personne, mais vous avez désobéi au Saint-Esprit. Et ça, c'est très important. Alors, la réponse à ces objections, parce que cela, on l'entend très très souvent. Vous avez, très souvent, on dira aux jeunes, il n'y a pas de péché à ne pas suivre sa vocation, sauf si on risque l'enfer. Mais qu'est-ce que c'est que ces raisonnements? Bien sûr qu'il y a un péché à ne pas faire ce que le bon Dieu attend de nous. Bien sûr, c'est une évidence. Alors évidemment, si on n'est pas appelé par Dieu, il n'y a pas de péché à ne pas suivre une vocation que le bon Dieu ne nous donne pas. Mais si on pense qu'on est appelé par Dieu. Or, la vocation est très souvent une vocation de raison, puisque la conscience est le résultat d'un acte de raison par lequel nous voyons clairement dans notre raison ce que Dieu attend de nous, ou bien dans la raison éclairée par la foi, mais la foi c'est encore la raison. Il est évident qu'il y a des obligations, qui sont des obligations que nous voyons froidement, qui s'imposent à nous, qui n'entraînent pas nécessairement un enthousiasme sensible. Et saint Alphonse de Ligorie dit qu'une vocation de raison est une vocation plus profonde et plus solide qu'une vocation de simple enthousiasme. On peut en dire autant du mariage, et on peut en dire autant de toutes les résolutions qui sont prises. Attention, je sais bien que quand je parle de vocation de raison, tout de suite, il y a des petites lumières rouges ou oranges qui s'allument dans les yeux, comme si j'imposais ou comme si j'allais finir par imposer la vocation à tout le monde. Je n'ai jamais dit cela. Jamais, 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 jamais. Parce que justement, il y a des non-vocations de raison. Il y a des actes de raison qui montrent qu'on n'a pas la vocation. Et à ce moment-là, ça serait une erreur et une faute de suivre une prétendue vocation qu'on n'a pas. La réponse à tout cela. Tout d'abord, il n'existe pas d'acte neutre. Ça, c'est très important. Tout acte humain est soit un acte de vertu, soit un péché. Parce que sinon, il ne serait pas humain. Parce que soit il est dirigé vers Dieu, soit il n'est pas dirigé vers Dieu. Soit il est dirigé directement vers Dieu, c'est un acte de vertu. Soit il est dirigé vers Dieu mollement, c'est-à-dire sans mettre en cause la charité, mais tout en prenant un petit peu son temps pour cueillir les fleurs du chemin, c'est un péché véniel. Soit il n'est pas du tout dirigé vers Dieu, c'est le contraire, c'est le péché mortel. Et ça, c'est très important, vous voyez. Très, très important. Si vous formez des enfants, et pour vous-même, il n'y a pas d'acte neutre. Il ne s'agit pas de tomber dans le scrupule. Il ne s'agit pas de voir des péchés à tous les pas. Il s'agit de voir que s'il n'y a pas d'acte neutre, tout doit être fait avec délicatesse. Et cela, vous voyez, ça implique des bonnes habitudes, et le plus tôt on les donne, et le mieux ça vaut. Vous savez, dire qu'il n'y a pas d'acte neutre, ou dire qu'il faut fuir le péché véniel de propos délibérés, c'est la même chose. Deuxièmement, deuxième réponse, deuxième élément de la réponse, la fidélité au Saint-Esprit. Vous voyez, quand je commentais la charte du MJCF ou des Amis du Sacré-Cœur auprès de ceux qui voulaient s'engager, je leur disais, certes, la charte n'oblige pas sous peine de péché. Je leur donnais les deux explications, celle que je vous ai déjà donnée, puis je leur donnais la suivante. Mais c'est bien le Saint-Esprit qui vous a amené jusqu'ici. C'est bien le Saint-Esprit qui vous a fait comprendre tout le bien pour votre âme que vous avez à devenir animateur chez les Amis du Sacré-Cœur. Et là, je voyais toutes les têtes qui hochaient d'approbation. Et par conséquent, si c'est le Saint-Esprit qui vous a amené jusque-là, il est évident que ne pas suivre le Saint-Esprit, désobéir au Saint-Esprit, c'est bien un péché. La même chose pour vos résolutions. C'est le Saint-Esprit qui vous a inspiré de ne pas boire de vin pendant le carême. Ah oui, si vous découvrez que ce n'est pas le Saint-Esprit, si votre femme vous fait remarquer que depuis que vous ne buvez plus de vin, vous êtes de mauvaise humeur et que vous vous fâchez sur tout le monde, alors buvez du vin. Parce que le Saint-Esprit vous montre que le premier choix n'était pas fait selon le Saint-Esprit. Mais si c'est bien le Saint-Esprit qui vous a inspiré le premier choix, négliger ce choix, c'est négliger le Saint-Esprit. Vous allez me dire, ça n'est pas grave. Mais justement, je suis en train de vous expliquer qu'on arrive aux choses graves parce qu'on a négligé les choses pas graves. Surtout aujourd'hui, on n'a pas le droit, dans les conditions dans lesquelles nous sommes, qui ne sont plus les conditions d'autrefois où la société nous portait. Aujourd'hui, la société ne nous porte plus. C'est à nous de nous porter tout seuls. Quelques exemples. Saint Dominique Savio, je veux me faire saint. Et il n'était pas une exception. Don Bosco prêchait à tous ces jeunes d'être très attentifs à fuir tout péché, même véniel. Vivre sous le regard de Dieu, et c'est une autre manière de dire tout ce que j'ai voulu vous expliquer. Maman Marguerite disait à Saint Jean Bosco et à ses enfants, « Je ne te vois pas, mais Dieu te voit. » Et quand nous nous disons « Dieu me voit », il est évident que si on est honnête, on ne peut pas dire « Dieu me voit et il ne juge pas mes actes ». Dieu me voit et ça lui est complètement égal que je fasse telle chose ou telle autre chose. Ça n'est pas égal pour nos parents. Lorsque nos parents nous voient, ils sont très contents si nous prenons des bonnes initiatives et mécontents si nous traînons. Je parle pour les enfants, je me mets à la place des enfants. Ils sont mécontents si les enfants se traînent, si les enfants ne font rien. Ils disent « mais fais quelque chose d'intelligent, ne perds pas ton temps ». Eh oui, et le bon Dieu dit la même chose. Et cela va très loin. Il y avait un vagabond qui volait des poules. Jean Bosco, qui était tout jeune à l'époque, s'était bien douté que la poule qui avait disparu était sous le manteau du vagabond en question. Elle lui dit, monsieur, rendez-moi ma poule. Ah, mais je ne veux pas ta poule, mon petit. Si, si, monsieur, vous êtes un voleur, je sais très bien. Tant et si bien que le vagabond lui a rendu la poule. Il en est tout content, il vient voir sa maman. Et il lui dit, maman, vous n'avez quoi, 8-10 ans. Maman, regarde, j'ai réussi à récupérer la poule que le vagabond avait volée. Et la maman lui fait des reproches. Elle lui dit, comment sais-tu que ce vagabond avait volé ? Oh, mais je m'en doutais bien. Ah, tu as fait un jugement téméraire. J'aurais préféré que tu ne récupères pas la poule plutôt que de faire un jugement téméraire. Le pauvre Don Bosco comprenait pas, il était jeune, il a trouvé quand même que c'était pas téméraire de faire ce jugement-là, qu'il y avait à son avis une évidence que le vagabond était le voleur. Mais c'est la maman qui avait raison. Et puis, peu importe du détail, ce qui est certain, c'est que la maman formait sa conscience. Elle formait sa conscience. Blanche de Castille, disant à son fils, « Je préférerais te voir mort que coupable d'un seul péché mortel », maman Marguerite aurait préféré perdre la poule que de voir son fils faire un simple jugement téméraire. Et vous en avez qui sont morts pour avoir refusé un péché véniel. Je vous ai raconté le cas du marquis de Cambourg qui a été guillotiné parce qu'il a refusé de faire un mensonge qui n'aurait pas été mortel. Non seulement il faut un grand amour de Dieu par-dessus tout, mais il faut aller plus loin. Il faut rechercher l'amour de Dieu et rechercher sa sagesse. Pour cela, il faut correspondre au désir du cœur de Jésus. Or, vous les connaissez, mes bien chers frères, ces désirs. C'est le salut des âmes. C'est la rédemption de l'humanité. C'est ce que vous transmet la Très Sainte Vierge à Fatima, prière et pénitence pour les pécheurs. C'est ce que tous les bons chrétiens ont toujours compris. Au début du XXe siècle est née la croisade eucharistique pour les enfants, recommandée par Saint Pie X, et qui a fait tant, tant et tant de bien. La devise de la croisade eucharistique, « Prie, communie, sacrifie-toi, sois apôtre ». Prie, pour entrer dans le cœur de Jésus, communie pour avoir un profond amour du cœur de Jésus, presque une identification, vous voyez. Prie, communie, sacrifie-toi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va plus loin que d'être dans l'amour de Dieu. On quitte tout pour l'amour de Dieu. On se quitte soi-même pour l'amour de Dieu. Sois apôtre, fais du bien autour de toi. Je vous recommande la vie d'Hermann Wins, le petit prêtre de Merksen en Belgique. C'est tout à fait remarquable sur la délicatesse d'un enfant. Et vous avez la vie de Saint-Dominique Savio, François Bézouquet, qui hélas n'est pas traduite, Michel Magon, enfin, tous les vies de saints de Saint-Jean Bosco. Et la vie de Saint-Jean Bosco lui-même. Je termine cette deuxième partie sur rechercher l'amour de Dieu. Tous les matins, nous disons à la prière de prime, par laquelle nous commençons nos journées, « Seigneur, qui nous avez fait parvenir au début de ce jour, sauvez-nous par votre vertu, pour que nous ne déclinions vers aucun péché, voyez, aucun, pas seulement le péché mortel, mais que nos paroles, nos pensées et nos actes soient dirigés toujours à faire votre justice. » Entrer dans la justice de Dieu. Justice, c'est un terme biblique, hein, et juste ce qui est sage, ce qui est droit, ce qui est bon. Nous entrions dans la droiture de Dieu. Troisième partie de ce sermon, je voudrais vous montrer comment on forme sa conscience et comment on agit en conscience contre l'utilitarisme. Je vous ai dit que la révolution vous pousse à une conscience souveraine, en raison de ce qui est utile. Oui, Dieu demande cela, mais qu'est-ce que tu veux à notre époque, mais ceci, si on ne fait pas, alors on n'obtiendra pas les fruits que nous attendons. Et cela, c'est qu'on ne croit pas à l'action de la Providence, et on ne croit pas au mystère de la Providence. Les martyrs auraient très bien pu dire, les évêques martyrs, aurait très bien pu dire « Je suis nécessaire à mon peuple, quelques petits grains d'encens aux idoles, ni vus ni connus, et comme ça, je reste avec mon peuple, qui sinon n'aura plus de pasteur. » Eh bien ça, c'est oublier que le pasteur premier, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un mystère dans la providence divine. J'arrête ici ce sermon, j'en suis à 20 minutes, un petit peu plus. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, et je vous les dirai la prochaine fois, tout simplement. Ce que je vous ai dit est déjà beaucoup. Méditez-le, mettez-le en pratique, mettez-le en pratique. Et pour cela, faites votre examen de conscience. Saint Ignace dit deux fois par jour, midi et soir, en tout cas au moins le soir, en bons enfants de la Sainte Vierge. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.